Amen. Merci William pour ta présidence. Merci pour ces beaux chants qui vont très bien avec le thème du message ce matin. On est dans une série qui s'intitule « Qu'attends-tu de ton avenir? » Et c'est une bonne question. Je jasais avec quelqu'un hier de la guerre en Ukraine, puis on ne voit pas d'issue à ça, tu sais. On ne voit pas d'issue. Et il y a plein de choses dans la vie, dans le monde dans lequel on vit, on ne voit pas l'issue de ça. Et les gens se posent de sérieuses questions, ou même peut-être évitent de se poser ces questions-là parce que c'est trop confrontant, c'est trop anxiogène peut-être de dire « mais qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va nous arriver? Qu'est-ce qui va m'arriver, moi? » Qu'attends-tu de ton avenir? C'est quoi? Sur quoi est basée ta vision de l'avenir? C'est qu'est-ce qui t'attend? Quel est ton avenir? Et puis, heureusement que pour ceux qui connaissent Dieu, qui ont été connus de Jésus, il y a une espérance. Et on a vu que l'espérance, en dehors de la personne de Dieu, est illusoire. L'être humain se donne des espérances, mais ces espérances-là sont illusoires. C'est des peut-être, c'est des probabilités. Hein? Si vous rencontrez un spécialiste en finance, il ne pourra pas... Tu sais, nous, on rencontre des personnes conseillées, et puis ils nous disent, ben là, les experts pensent que les marchés vont aller dans cette direction-là, mais personne ne le sait vraiment. Ben merci, on le savait déjà ça. On le savait déjà ça. Tu viens de nous dire quelque chose qu'on... Ben, en tout cas, il faut bien qu'ils gagnent leur vie à quelque part. mais c'est ça, c'est basé... Parce que l'être humain ne connaît pas l'avenir à 100% et ne contrôle absolument pas l'avenir. Alors que Dieu, lui, connaît l'avenir et contrôle tout. Alors ici, le verset thème. Je martèle ce verset-là, j'espère que vous allez commencer, que vous avez commencé à mémoriser le verset, puis je ne me tâne pas de le répéter parce que c'est vraiment, vraiment important. Puis la séquence que moi on m'a appris quand j'étais jeune, lis la parole, mémorise la parole, médite la parole, et je dirais encore, après ça, j'ai appris de prier la parole. Fait que, répétez avec moi ce beau verset. Que Dieu, qui est l'auteur de l'espérance, vous comble de toute joie et de sa paix par votre confiance en lui. Ainsi, votre cœur débordera d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Et quand tu l'auras mémorisé, là, ben, quand tu as des périodes d'insomnie ou le matin ou tu es entre deux, là, ah, le verset pop. J'ai entendu un petit oui, là, c'est bon. Verset pop, puis tu te mets à réfléchir là-dessus. Dieu qui est l'auteur de l'espérance, c'est de lui qui vient cette espérance-là. Et il veut combler mon cœur de joie, de paix, par ma confiance. OK, c'est vrai, il faut que j'aie confiance. Tu sais, on commence à méditer. Et là, ce matin, c'est pas ça le message, mais je veux juste te montrer comment faire pour arriver à prier la parole? À prier la parole. Fait qu'on prend cet exemple-là, ce verset-là en exemple. Dieu, toi qui es l'auteur de l'espérance. Là, je parle à Dieu, là. Je parle à Dieu, mais j'utilise les paroles du Saint-Esprit. Et ça, c'est prier par l'Esprit. Dieu, toi qui es l'auteur de l'espérance. Viens combler mon cœur de toute joie, de ta paix, par ma confiance en toi, Seigneur. Je veux faire confiance. Je veux te faire confiance. Viens combler mon cœur. Fais déborder mon cœur d'espérance par la puissance de ton esprit. Amen. Et ça, là, ça devient une prière qui est basé sur les Écritures, qui est une prière que Dieu ne peut jamais dire non. Parce que c'est sa parole. C'est son esprit qui a inspiré ces paroles-là. Tu sais, quand on prie, là, On est tous pareils. Et je vais fermer la parenthèse, ce ne sera pas long. Mais, Seigneur, mon char est brisé, je n'ai pas l'argent pour le faire réparer. Ah ben, demain, il faut que je rencontre telle personne, c'est que je vais lui dire. Ou bien, j'ai une entrevue pour mon travail la semaine prochaine. Ou bien, je suis stressé, j'ai commencé un nouveau travail. Hein, c'est OK, non. Je ne suis pas en train de dire que tu ne peux pas parler à ton Père Céleste de ces choses-là. Au contraire, il faut en parler, là, OK? Mais regardez, ce sont toutes des choses terre à terre qui un jour vont disparaître, OK? Mais ça, là, ça c'est une requête spirituelle. C'est une requête spirituelle qui va avoir une portée éternelle pour toi et pour ceux qui t'entourent. Tu vois la différence? Fait que moi, je vous encourage, frères et sœurs, à commencer à voir comment tu peux prier les Écritures. Méditer, mémoriser, méditer et prier les Écritures. Amen? OK. Fermeture de la parenthèse. Fait que ce matin, on poursuit notre étude dans la dernière section de notre série sur l'espérance du croyant, intitulée « Qu'attends-tu de ton avenir? » Et j'espère que tu vas voir comment Dieu répond ultimement aux aspirations de ton cœur, aux désirs profonds de ton cœur à travers l'étude de sa parole. À date, on a vu que Dieu veut te donner. Dieu veut te donner l'espérance d'un corps nouveau. Hein, c'est confrontant, on a un corps. Mais c'est pas long que dans la vie, on s'aperçoit que notre corps perd des capacités, notre corps tombe malade, etc., puis notre corps fait face à une mort ultime. L'espérance d'un corps ressuscité, transformé, est un gros morceau de l'espérance que Dieu veut te donner, ça on l'a vu. On a vu aussi l'espérance d'hériter d'un royaume lorsque Christ revient et installe son royaume millénaire sur la terre. Mais aussi merveilleux, on a passé des semaines là-dessus, aussi merveilleux que ces deux points-là soient, le summum de l'espérance que Dieu veut te donner, c'est de se trouver, de te retrouver dans sa présence glorieuse pour l'éternité. Et ce matin, ben, je reviens avec la demande de David, qui dit « Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment » dans le psaume 27, verset 4, « Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. » Ben voyons donc, David, ça se peut pas, tu veux plus aller jouer dans les champs avec les brebis, tu veux plus aller avec tes amis, tu veux plus avoir du fun. C'est beau tout ça, là, mais il y a quelque chose de encore plus grand, de plus glorieux, de plus merveilleux, c'est de contempler la magnificence de l'Éternel. Puis on a fait un parallèle la semaine passée. Bien, c'est dur à comprendre. Là. C'est un peu nébuleux, si on veut. Mais on prend l'exemple de regarder le spectacle d'un soleil couchant sur un océan. Là. Tu sais, les gens sont, on est comme, waouh. Mais là, c'est mille fois, c'est millions de fois plus glorieux, plus spectaculaire, plus merveilleux. D'être en présence glorieuse de Christ. Et c'est ce que Jésus désire. Père, mon désir, il dit dans Jean 17, est que ceux que tu m'as donnés soient avec moi, là où je serai, et qu'ils, quoi? Contemplent ma gloire. Mais savez-vous qu'on peut déjà commencer à contempler sa gloire maintenant, en méditant, en priant. On peut déjà être dans les lieux célestes. Et plus on fait ça, plus on va avoir hâte à ce jour où on va être dans sa présence pour toujours. Celle que tu m'as donnée, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la création du monde. Dans Exode chapitre 24, il y a un passage merveilleux, on ne prendra pas le temps de regarder, mais je vais juste vous lire quelques versets. Un passage merveilleux, le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte. Puis là, sont arrivés autour du mont Sinaï, sont campés autour du mont Sinaï. Et là, Dieu lance une invitation à Moïse. Et Dieu dit à Moïse, monte la montagne, monte vers l'Éternel et prends avec toi Aaron, Nadab, Abihu et 70 des responsables d'Israël. Alors, Moïse gravit la montagne avec Aaron, Nadab, Abihu et 70 des responsables d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël sous ses pieds, s'étendait comme une plateforme de saphir ayant la pureté du ciel. L'Éternel n'étendit pas la main, il ne frappa pas les gens sur ces notables des Israélites, mais regardez, ils contemplèrent Dieu. Ils contemplèrent Dieu et puis ils mangèrent et burent. Waouh! Imaginez-vous la scène. C'est à couper le souffle. Tout un pique-nique céleste. Dieu a aussi visité le prophète Ézéchiel alors qu'il était en exil en Babylone avec le reste du peuple d'Israël et lui a donné une vision de sa gloire. Là, je vous invite à tourner dans vos Bibles avec moi dans Ézéchiel. Ézéchiel se trouve dans l'Ancien Testament. C'est un prophète qui a été ce qu'on appelle exilique, ça veut dire pendant l'exil, pendant que le peuple d'Israël était en déportation en Babylonie. Il était réfugié en Babylonie. Il avait été pris captif par les Babyloniens. Et Dieu donne une vision au tout début de le ministère d'Ézéchiel envers son peuple. Et c'est une vision de la gloire de Dieu. Une vision de la présence glorieuse de son trône. Mais c'est un trône qui est mobile. Alors, on va lire Ézéchiel chapitre 1. À partir du verset 4. Je vais aller rapidement. Je regardais, voici le vent du septentrion, du nord, un vent impétueux, une grosse nuée, une gerbe de feu qui répandait de tous côtés une lumière éclatante, au centre de laquelle brillait comme de l'air impoli sortant du milieu du feu. Au centre encore apparaissaient quatre animaux dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Chacun d'eux avait quatre faces et chacun avait quatre ailes. Leurs pieds étaient droits et la plante de leurs pieds était comme celle du pied d'un veau. Ils étincelaient comme de l'air impoli. Ils avaient des mains d'hommes sous les ailes et à leurs quatre côtés, et tous les quatre avaient les faces et les ailes. Leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre. Ils ne se tournaient point en marchant, mais chacun marchait droit devant soi. Quant à la figure de leur face, ils avaient tous une face d'homme. Tous les quatre avaient une face de lion à droite, tous les quatre avaient une face de bœuf à gauche, et tous les quatre avaient une face d'aigle. Leurs faces et leurs ailes étaient séparées par le haut. Deux de leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre, et deux couvraient leur corps. Chacun marchait droit devant soi. Ils allaient où l'esprit les poussait à aller, et ils ne se tournaient point dans leur marche. L'aspect de ces animaux ressemblait à des charbons de feu ardent. C'était comme l'aspect des flambeaux, et ce feu circulait entre les animaux. Ils jetaient une lumière éclatante, et il en sortait des éclairs. Et les animaux couraient et revenaient comme la foudre. Je regardais ces animaux, et voici, il y avait une roue sur terre, près des animaux, devant leurs quatre faces. Et à leur aspect et leur structure, ces roues ressemblaient à être en chrysolite, et toutes les quatre avaient la même forme. Leur aspect et leur structure étaient tels que chaque roue paraissait d'être au milieu d'une autre roue. En cheminant, on voit qu'il y a de la misère à décrire. C'est tellement spécial, il y a de la misère à décrire. En cheminant, elles allaient de leurs quatre côtés, elles ne tournaient point dans leur marche. Elles avaient une circonférence, une hauteur effrayante, ça veut dire gigantesque. Et à leur circonférence, les quatre roues étaient remplies d'yeux tout autour. Quand les animaux marchaient, les roues cheminaient à côté d'eux, et quand les animaux s'élevaient de terre, les roues s'élevaient aussi. Ils allaient où l'esprit les poussait à aller, et les roues s'élevaient avec eux, car l'esprit des animaux était dans les roues, des roues animées. Verset 21, « Quand ils marchaient, elles marchaient, quand ils arrêtaient, elles s'arrêtaient. » OK. Verset 22, « Au-dessus des têtes des animaux, il y avait comme un ciel de cristal resplendissant qui s'étendait sur leurs têtes dans le haut. » Sous ce ciel, leurs ailes étaient droites l'une contre l'autre, et ils en avaient chacun deux qui les couvraient, chacun deux qui couvraient leur corps. J'entendais le bruit de leurs ailes quand ils marchaient, pareil au bruit de grosses eaux, et à la voix du Tout-Puissant, c'était un bruit tumultueux comme celui d'une armée, et quand ils s'arrêtaient, ils laissaient tomber leurs ailes. Et il se faisait un bruit qui partait du ciel étendu sur leur tête lorsqu'ils s'arrêtaient et laissaient tomber leurs ailes. Au-dessus du ciel qui était sur leur tête, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir en forme de trône. Et sur cette forme de trône apparaissait comme une figure d'homme placée dessus en haut. Je vis encore comme de l'air impoli, comme du feu au-dedans duquel était cet homme et qui rayonnait tout autour. Depuis la forme de ses reins, jusqu'en haut et depuis la forme de ses reins jusqu'en bas. Je vis comme du feu et comme une lumière éclatante dont il était environné. Tel l'aspect de l'arc qui est dans la nuit, en un jour de pluie, un arc-en-ciel. Ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait. C'était une image de la gloire de l'Éternel. À cette vue, je tombais sur ma face. Et j'entendis la voix de quelqu'un qui me parlait. Il me dit, « Fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds. » Prions. Père éternel, Dieu de gloire, souverain créateur du ciel et de la terre, roi de l'univers, on veut se courber devant toi, Seigneur, ce matin. On veut s'agenouiller dans ta sainte présence et t'adorer. Merci pour cette révélation ce matin de ta gloire. Viens par ton Esprit Saint nous révéler ta personne et viens nous donner sagesse et révélation pour qu'on puisse saisir l'espérance que tu veux nous donner, Père. Oui, Seigneur, que nos cœurs soient comblés de joie et de paix par notre confiance en toi. On te prie de chasser toute autre voix et on invite ton esprit ce matin, maintenant, à venir parler à nos cœurs pour la gloire de Jésus. Amen. Le ciel, c'est là où est la demeure de Dieu. C'est là où est le trône de Dieu. Dieu est partout. Dieu est esprit. Dieu est partout. Mais la parole de Dieu nous révèle que là où le centre de sa présence est, c'est le ciel. En fait, Dieu n'est pas au ciel. Le ciel est là où Dieu est. Le ciel est la demeure de Dieu. Le ciel est où est son trône. Et on voit ici que ce trône-là est mobile. Wow! Il se déplace. Il peut être partout, mais c'est le centre de sa présence. C'est la demeure de Dieu. Dieu a donné aussi à Jean une vision de cette présence glorieuse. Si vous tournez maintenant dans Apocalypse 4, Apocalypse à la fin du Nouveau Testament, Apocalypse chapitre 4. Et là, je vais lire dans la version sommaire. Apocalypse 4, verset 1. Après cela, je vis une porte ouverte dans le ciel, et la voix que j'avais entendue me parler au début et qui résonnait comme une trompette me dit, « Monte ici, hein, comme Dieu a dit à Moïse, monte ici, et je te montrerai ce qui doit arriver après cela. » À l'instant, l'Esprit se saisit de moi, et voici, il y avait un trône dans le ciel, encore, un trône. Et sur ce trône, quelqu'un siégeait. Celui qui siégeait avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Un arc-en-ciel entourait le trône, on l'a vu tantôt, brillant comme l'émeraude. Autour du trône se trouvaient 24 trônes, et sur ces trônes siégeaient 24 vieillards. Ils étaient vêtus de blanc et portaient des couronnes d'or sur la tête. Du trône jaillissaient des éclairs, on l'a vu ça tantôt aussi dans Ézéchiel, des voix et des coups de tonnerre. Devant le trône brûlaient 7 flambeaux ardents qui sont les 7 esprits de Dieu. Devant le trône s'étendait comme une mer de verre transparente comme du cristal. On l'a vu ça dans Ézéchiel, au-dessus du tête des chérubins, des quatre anges. Au milieu du trône et tout autour se tenaient 4 êtres vivants. Voilà, entouré, entièrement couvert Dieu devant et derrière. Le premier d'entre eux ressemblait à un lion, le deuxième à un jeune taureau, le troisième avait le visage pareil à celui d'un homme, et le quatrième était semblable à un vol d'aigle, un aigle en plein vol. Il y a des significations à ça, mais on ne prendra pas le temps pour ça ce matin. Chacun de ces quatre êtres vivants avait six ailes couvertes Dieu par-dessus et par-dessous. Jour et nuit, ils ne cessent de dire « Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. » Et chaque fois que les êtres vivants, les chérubins, les anges qui transportent le trône, présentent leur adoration, leur hommage et leur reconnaissance à celui qui siège sur le trône et à celui qui vit éternellement, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui siège sur le trône et adorent celui qui vit éternellement. Ils déposent leur couronne devant le trône et disent, « Tu es digne, Seigneur notre Dieu, qu'on te donne gloire, honneur et puissance, car tu as créé tout ce qu'il existe. L'univers entier doit son existence et sa création à ta volonté. » Wow! Le ciel est mentionné plus de 500 fois. Dans le Nouveau Testament. Et c'est la demeure de Dieu. C'est le sang de la présence glorieuse de Dieu. En 2015, on était en voyage à Barcelone. On était loin de chez nous, William. Ouais, pauvres nous autres, hein? Mais non, on n'était pas pauvres, là. À Barcelone, il y a... la cathédrale Sagrada Familia, qui veut dire la Sainte Famille. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, non? Quelques-uns, oui. Oui. Bien, c'est très célèbre mondialement. C'est l'œuvre d'un architecte qui s'appelle Gaudi. Et de l'extérieur, il y a des files d'attente pour rentrer. Là, l'extérieur, c'est impressionnant. C'est quelque chose. Mais c'est lorsqu'on pénètre à l'intérieur. À l'intérieur, nos regards se portent vers le haut de l'architecture qui ressemble à une forêt d'immenses colonnes en forme de tronc d'arbre. Vous voyez l'image? Toute la structure nous pousse à fixer les yeux vers le haut et non sur des images ou des statues, mais sur les reflets d'une lumière glorieuse qui est diffusée à travers les vitraux tout en haut. C'est comme si nos cœurs sont portés vers la gloire de Dieu. Notre fils Philippe, qui avait été quelques mois avant nous, nous avait confié qu'au moment que lui avait pénétré l'intérieur, il jouait une musique douce, classique. Quelqu'un jouait, je pense, de la flûte ou du violon. Et ça remplissait la place. Et la musique combinée avec le spectacle, il avait les yeux pleins d'eau, Philippe, quand il est rentré là. Si tel est l'effet que peut produire le résultat d'un architecte humain, d'une construction faite de pierre et de mortier, quel effet sur l'âme humaine produira l'architecture du grand roi de l'univers, rempli de sa présence glorieuse? Jésus veut que tu saches ce matin, c'est que Dieu veut te donner l'assurance que ce sera aussi ta demeure. Le ciel, c'est la demeure de Dieu, mais que ça soit aussi ta demeure. Le titre du message ce matin, c'est ça. C'est l'espérance de se retrouver à la maison pour toujours. Tournez avec moi dans Apocalypse 21 maintenant. Apocalypse 21. On l'a lu l'autre jour, la semaine passée, mais on va le relire. Les 8 premiers versets seulement. Apocalypse 21. Puis je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'existait plus. Je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendre du ciel d'auprès de Dieu, belle comme une mariée qui s'est parée ou qui s'est préparée pour son époux. Et j'entendis une voix forte venant du trône qui disait, « Voici la tente ou le le temple de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront ses peuples, et lui, Dieu, avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance, car ce qui était autrefois a définitivement disparu. Alors celui qui siège sur le trône déclara, « Voici, je renouvelle toutes choses. » Il ajouta, « Écris, ces paroles sont vraies et entièrement dignes de confiance. » Puis il me dit, « C'en est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Celui qui a soif, je donnerai, moi, à boire gratuitement à la source d'eau coule l'eau vive. Tel sera l'héritage du vainqueur. Je serai son Dieu et il sera mon fils. » On a vu la semaine dernière que Dieu va créer une nouvelle terre, des nouveaux cieux. En effet, la présente création, après avoir été restaurée pendant 1000 ans, durant le règne millénaire de Christ sur la terre, sera détruite. Et une nouvelle création, une nouvelle terre, nouveaux cieux, la parole de Dieu nous dit, là où habite la justice, où il n'y aura plus aucun péché, va apparaître. Et dans cette nouvelle terre, ces nouveaux cieux, on voit quelque chose d'extraordinaire, c'est que la nouvelle Jérusalem descend du ciel pour venir s'installer sur terre. C'est quoi ça, la nouvelle Jérusalem? Jérusalem, dans la Bible, la ville physique, était la ville choisie par Dieu pour y établir son nom, sa présence sur terre, dans l'époque où la nation d'Israël était son peuple. Et de façon particulière d'attacher sa présence, le temple a été construit là, et c'était le lieu de rencontre entre Dieu et les hommes. Donc Jérusalem, le nom, symbolise la demeure de Dieu. Et qu'est-ce qu'on a ici? C'est qu'on voit que la demeure de Dieu descend du ciel pour s'installer sur terre. Il n'y aura donc plus de distance entre la demeure de Dieu et la demeure des êtres humains. Les deux seront comme fusionnés. Cette ville qui descend du ciel, la demeure de Dieu, on nous dit qu'elle est préparée ou parée comme une épouse pour son époux. Dieu a préparé la Nouvelle Jérusalem, sa demeure, pour le Christ. Elle est l'épouse de Christ, son peuple. Donc, son peuple demeurera pour toujours avec lui dans son endroit phénoménal, d'une beauté parfaite. Tout son peuple, tous ses enfants auront leur place. John MacArthur nous fait remarquer qu'il y a, une notion ici de préparer. Hein? Elle dit qu'elle est belle comme une mariée qui s'est préparée ou parée pour son époux. Et ça nous fait penser à ce que Jésus a dit dans Jean 14. Qu'est-ce qu'il a dit dans Jean 14? Que votre cœur ne se trouble pas, ayez foi en Dieu et ayez foi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Si ce n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. En effet, je vais vous, quoi? Préparer une place. Je vais vous préparer une place. Lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que vous soyez vous aussi là où je suis. Vois-tu ici, mon cher frère, ma chère sœur, que Jésus te veut avec lui? C'est ça qu'il faut. Il faut premièrement accepter, réaliser, recevoir cette vérité dans ton cœur. Que Jésus te veut avec lui, que tu as une place dans son cœur, que tu y appartiens, que ton nom y est inscrit. Imagine que tu te fais inviter par un ami richissime pour passer une semaine dans une villa. Et tu arrives là, et la villa, c'est une immense villa sur le bord de la mer, d'une beauté extraordinaire. Il te conduit dans une chambre belle et grande, où tout a été parfaitement agencé, préparé, arrangé à tes goûts, à toi. Et même ton nom est inscrit sur la porte et brodé sur les serviettes et sur la literie. Imagine. Non seulement ça, mais tu fais maintenant partie de la famille et ta place est la tienne en exclusivité pour toujours.
Wow!
Ça, là, c'est même juste un petit portrait de ce que Jésus est allé faire pour toi. Ah non, c'est trop beau, c'est trop beau. Ah non, ça se peut pas, ça se peut pas. C'est ça que vous pensez maintenant. Je sais. Certains d'entre vous pensent ça. Moi aussi, j'y pense. Pourquoi? Parce qu'on sent qu'on ne mérite pas, de un. Mais laisse-moi dire, il n'y a personne ici qui mérite ça. Hein? Il n'y a personne qui mérite ça. Mais Jésus est venu, il a vécu sur terre, il a pris sur lui, à la croix, toutes tes fautes, tous tes péchés, il a subi la colère de Dieu contre tes péchés, pour mériter cette place-là pour toi. Il est mort, il est ressuscité, et puisqu'il est ressuscité, ça prouve que tu aussi ressusciteras un jour et que tu auras ta place avec lui. Amen. C'est l'Évangile. C'est l'Évangile. Gloire à Dieu. On a accueilli quelques jeunes gens chez nous à travers les années qui ont vécu quelques mois jusqu'à quelques années. Tous dans la même chambre, pas en même temps, mais en succession. Là. En succession. Et puis, quand ces jeunes-là, des fois, reviennent nous visiter, et on leur dit, « T'as ta chambre en bas. » Mais il ne faut pas qu'on les évite tous en même temps. Parce que là, ils vont dire, « Il a pris ma chambre. » Ils vont sentir qu'ils ont perdu leur place. Ce matin, Dieu t'invite à monter par la foi vers sa demeure. Comme il a invité Moïse, comme il a invité Jean. Viens vers ta demeure. Sache que Jésus y est allé te préparer une place pour toi. Pour toi. Et la place que Jésus est allé te préparer se situe dans cette ville, cet endroit qui est la demeure de Dieu. Abraham anticipait de voir et d'habiter cette ville. Imaginez, Abraham, il y a plus de 3000 ans. Là. La Bible nous dit, dans Hébreux chapitre 11, « Par la foi, Abraham a séjourné en étranger dans le pays qui lui avait été promis, vivant sous des tentes, car il attendait la cité au fondement inébranlable dont Dieu lui-même est l'architecte et le constructeur. » Wow! C'est pas le Jérusalem physique là, qu'on connaît aujourd'hui, ni dans le temps de David, là, dont le constructeur et l'architecte est Dieu lui-même. On parle d'une ville éternelle. Abraham, par la foi, a vécu en étranger, en pèlerin sur cette terre parce qu'il avait la conviction profonde qu'il y avait une ville éternelle vers laquelle il allait. Et c'était ça, sa demeure éternelle. C'est intéressant ici le mot grec. Le mot grec qui est traduit par espérance dans nos Nouveaux Testaments est le mot elpis qui signifie anticiper. Anticiper souvent avec plaisir. Hein? On a dit que l'espérance, ça veut dire avoir une assurance certaine d'un avenir assuré. C'est d'anticiper quelque chose avec plaisir, quelque chose qui est sûr d'arriver. Okay? S'attendre à quelque chose avec confiance. Ici, dans le passage, le mot grec est un peu différent. Le mot grec qui est traduit par « il attendait la cité au fondement » dont l'architecte et le constructeur est Dieu, là, il attendait, là. C'est un autre mot qui veut dire « s'attendre de recevoir ». Ah, c'est comme encore, tu sais, plus fort. Là. C'est comme « je m'attends à le recevoir ». Ça nous donne une autre notion sur l'espérance. Abraham vivait en pèlerin voyageur durant toute sa vie. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'ici sur terre, ce n'était pas sa demeure finale. Et toi? Et moi? Comment est-ce qu'on vit nos vies? Comme si notre maison, notre demeure était ici éternelle? As-tu cette attente qu'avait Abraham par la foi? As-tu cette espérance? As-tu la certitude que Christ a préparé une place exprès pour toi, que tu sois avec lui pour toujours, à la maison? Jésus t'a préparé une place. Il t'attend à la maison. Ça, c'est quelque chose qui... C'est la foi, c'est par la foi qu'il faut saisir ça. Hein? Mais c'est quelque chose qu'on n'entend pas souvent. Il y a, dans les siècles passés, où ce que les chrétiens étaient beaucoup moins en moyen que nous, beaucoup moins confortables, en souffrance, en difficulté, eux autres, là, ils s'attachaient à cette espérance. Puis nous, dans le 21e siècle, on vit tellement dans l'abondance, on vit tellement dans à l'aise qu'on ne pense pas à ces choses-là. On a perdu cette espérance-là. Mais c'est primordial d'avoir cette espérance-là. C'est vraiment primordial. Par sa mort, la croix, sa résurrection, Jésus a ouvert le chemin pour que tu puisses accéder à la présence glorieuse de Dieu. Et sans lui, aucun accès possible. Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité, la vie. Personne ne vient au Père que par moi. » Pourquoi? Parce que c'est le seul qui peut régler la question du péché de l'être humain vis-à-vis d'un Dieu saint. C'est le seul. Il l'a fait à la croix. Il demande aux gens de se détourner de leur vie et de croire en lui, de mettre leur confiance en lui. C'est quelque chose de personnel. Et il faut le faire personnellement. As-tu reconnu ta culpabilité devant Dieu? As-tu accepté que Jésus prenne ta place et paye pour tes fautes envers Dieu? As-tu plié le genou devant Jésus, le Sauveur et le Seigneur? Si oui, tu as une place auprès de Dieu. Tu as une place. Je ne connais pas les détails de ton vécu, ton histoire de vie, ton enfance, ton adolescence, l'âge adulte, tout ce que tu as vécu, tu as expérimenté comme événement. Mais je sais que l'être humain a besoin de savoir de qui il est aimé et à qui il appartient. De qui il est aimé et à qui il appartient. Si tu n'as pas ces deux choses-là, ça va mal dans ton âme. De plus, si tu peux avoir vécu des expériences comme beaucoup d'entre nous qui t'ont blessé dans ce domaine, tu as pu vivre le rejet, tu as pu vivre la négligence ou l'abandon, ça se peut que tu en es venu à croire dans ta tête d'enfant, dans ton cœur d'enfant, que personne ne voulait de toi. Que tu n'avais pas ta place. Que tu n'appartenais à personne ni rien. Si tu te sens souvent seul au monde, là, si tu te sens souvent seul au monde, là, même lorsque tu es entouré de gens, c'est que ton âme n'a pas trouvé sa place auprès de celui qu'il aime. Tu n'es pas convaincu dans ton cœur à qui tu appartiens et de qui tu es aimé. Je vous avoue que je vis des moments comme ça moi-même, où ce que je me sens tout seul au monde. Hein? Je ne suis pas seul, hein? je suis seul dans ma tête, mais je ne suis pas seul à vivre de sentir tout seul. Pas vrai? Je suis convaincu que ce matin, vous qui m'écoutez, probablement la grande majorité de vous peuvent dire oui, je me sens souvent comme ça. Sais-tu qu'en quelque sorte, toute la race humaine, nous sommes orphelins? Nous sommes des orphelins. Pourquoi? Parce qu'au départ, on avait cette connexion avec Dieu notre Père. Le péché est rentré dans le monde, nous a séparés de Dieu. La Bible dit nous sommes allés chacun comme des brebis errants, suivant notre propre voie. On s'est retrouvés très, très loin de la maison. Très, très loin. Pas surprenant qu'on se sent seul au monde. pas surprenant qu'on sent qu'on n'a pas notre place à nulle part. On ne sait pas de qui on est aimé. On ne sait pas à qui on appartient. Pas surprenant. Et là, on cherche à trouver dans quelqu'un ou quelque chose notre place. Hein? On cherche une relation amoureuse, on cherche dans nos enfants, on cherche dans notre travail, on cherche à trouver notre place, on cherche à trouver, là c'est ma place, là je suis quelqu'un, là je suis aimé. Mais toutes ces choses-là sont passagères et ne peuvent jamais te donner que Dieu seul peut te donner. Ton vrai Père, hein? Notre Père qui est aux cieux. Jésus disait, je m'en vais à mon Père et à votre Père. As-tu accepté que Dieu soit ton Père? Tu as-tu dit, j'accepte que tu sois mon Père. Sinon, là, je te souhaite de le faire, je te suggère de le faire. Il y a beaucoup de gens, même des croyants, qui n'ont jamais vraiment accueilli l'amour du Père, qui n'ont jamais laissé Dieu s'approcher de leur cœur parce qu'ils ne se sentent pas aimables. Ils n'ont jamais senti aimés et ils sont convaincus qu'ils ne sont pas aimables. Ils n'ont jamais trouvé leur place. Puis ils ne croient pas qu'il y a une place dans le cœur de Dieu pour eux. Je vous encourage à méditer, puis à lire, puis à mémoriser les psaumes. Un des psaumes que j'ai mémorisé depuis une couple d'années maintenant, c'est le psaume 84. Je vous lis. Ô Dieu, j'aime tes demeures éternelles, Seigneur des armées célestes. Je languis et je soupire, Éternel, après tes parvis. C'est quoi les parvis? C'est comme l'entrée. C'est l'entrée de la maison de Dieu. Je languis, je soupire, Éternel, après tes parvis. Mon être entier crie vers le Dieu vivant. Le moineau découvre un gîte. L'hirondelle trouve un nid où déposer ses pieds, près de tes autels, Éternel, Seigneur des armées célestes, mon roi et mon Dieu. Quand j'ai commencé à méditer, puis j'ai dit, ben voyons donc, il parle de son âme qui veut aller vers Dieu, entrer dans les parvis de Dieu, puis là, il nous parle des oiseaux. C'est quoi le rapport, les oiseaux qui viennent là-dedans? Mais c'est comme si l'auteur de ce psaume-là, un jour, était dans le temple, puis il a vu probablement, en tout cas, je ne sais pas, mais je m'imagine que c'est ça, là. Il a vu, à un moment donné, qu'il était dans le temple, puis il a vu... Regardons ça, il y a un nid d'oiseaux là, dans le temple de Dieu. Il dit, l'hirondelle, le moineau découvre un gîte, l'hirondelle trouve un nid où déposer ses pieds près de tes autels, Seigneur des armées célestes. Si Dieu, parce que c'est un lieu très saint, là, c'est le lieu saint de Dieu, Dieu permet à l'oiseau de faire sa demeure-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi aussi, je peux avoir ma demeure là. Si Dieu permet à un oiseau de se demeurer, c'est que moi aussi, je peux avoir ma demeure là. Bienheureux ceux qui habitent ta maison, car ils pourront te louer. Une autre version dit « célébrer toujours ». Bienheureux les hommes dont tu es la force, sur lesquels qui s'appuient sur toi. Dans leur cœur, ils trouvent des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, la vallée des larmes, ils en font un oasis et la pluie d'automne vient la recouvrir de ses bénédictions. D'étape en étape, leur vigueur s'accroît et ils se présentent à Dieu en Sion. Wow! Ah, j'aime tellement ça, là, cette image-là. Là, on est sorti de l'image de voir la présence glorieuse de Dieu. Puis on dit, OK, mais là, d'ici là, il faut quand même que je marche sur la terre. Mais qu'est-ce qui arrive à ceux-là qui ont cette aspiration-là? Bien, ils sont remplis de force. Ils marchent d'étape en étape avec la force. C'est ça l'importance d'avoir cette espérance-là. Ils marchent à travers des vallées de souffrance, de larmes, mais ils ne sont pas découragés. Même, ils en font un oasis. Pourquoi? Parce qu'ils ont la vision, comme Abraham, de la cité céleste, de leur demeure céleste. Ils s'en vont vers Dieu et ils trouvent des chemins tout tracés dans leur cœur. Et qu'est-ce qu'il dit? À la fin, ils se présentent à Dieu finalement, à Sion. Sion, c'est Jérusalem, c'est la demeure de Dieu. Ça me rappelle la bénédiction. C'est dans le titre, je pense. À celui qui peut vous garder de toute chute et vous faire paraître dans sa présence glorieuse, sans reproche et jubilant de joie, à lui soit la gloire dans l'Église, en Jésus-Christ, au siècle des siècles. Amen. Il peut vous faire présenter dans sa présence glorieuse. Oui, tu vas d'avoir traversé des vallées de larmes, des vallées de Baca, mais Dieu sera là. Ô éternel Dieu des armées célestes, entends ma prière. Veux écouter, ô Dieu de Jacob. C'est quoi sa prière? C'est quoi cette prière-là qui veut faire, qui veut que Dieu réponde? Toi, ô Dieu qui nous protège, veux regarder celui que par ton onction tu as établi. Fais-lui bon accueil. Car un jour dans tes parvis vaut bien mieux que 1000 ailleurs. Plutôt que rester sur le... je désire plutôt rester sur le seuil de la maison de mon Dieu que de demeurer sous les tentes des méchants. Il veut être dans la présence de Dieu, comme David a dit dans le psaume 27. Il veut contempler la gloire de Dieu. Il a réalisé qu'il n'y a rien de comparable sur la terre que ça, à ça. Et c'est là, sa demeure, et il en fait une prière à Dieu. « Fais-moi bon accueil. » Où est ta place? Où est-on chez toi? Réellement. À quel endroit appartiens-tu? Ah, ben moi, je suis un gars du lac. Moi, je suis un Jeannois, je suis un bleuet. Hein? Comment est-ce qu'on dit ça déjà? La laine? Pure laine. Hein? Pure laine. Ah, OK. Bon, ben c'est ça, tu as une identité, d'accord. Mais ça va durer quoi? 75, 80 ans, 95 ans, peut-être maximum, après? À qui appartiens-tu? Ah, ma famille, ma femme, mes enfants, mes cousins, mon oncle, mes tantes, ma tante. Ben, tout ce bon monde-là vont disparaître un jour. Le monde physique passera, les gens même les plus chers passeront. Ça te prend une demeure, une place éternelle. Ça te prend quelqu'un d'éternel, de qui tu es aimé et chez qui tu es accueilli. Moi, j'ai beaucoup aimé le film « Trouver Nemo ». Qui est sorti, je regardais ça ce matin, en 2003, ça fait 20 ans, Trouver Nemo. Alors, vous avez déjà vu ça, Trouver Nemo? Non? Les jeunes plus, là? OK, d'accord. Ben, c'est l'histoire d'un petit poisson qui se perd dans la mer, puis son père, il va à la recherche de son fils. C'est vraiment touchant. C'est un de mes films préférés. C'est en bonhomme, là? Un dessin animé? Mais c'est touchant, touchant, l'amour du père pour son fils. Et en cherchant pour son fils, il croise un poisson qui s'appelle Doris, qui est un poisson qui a des troubles de mémoire. Elle fait de l'amnésie, puis elle est très distraite. Et puis, elle essaie de l'aider, mais elle fait plutôt le nuire, là. Mais finalement, à la fin du film, il retrouve Nemo. Et là, tout est beau. Et là, ils se disent au revoir. Mais Doris a dit à Marin, ou Marlin en tout cas, le père de Nemo, « Non, pars pas, pars pas. » Elle dit, « Je ne peux pas te laisser aller. » Elle dit, « Parce que je te regarde dans les yeux, puis je suis à la maison. » Wow! C'est touchant. Je te regarde dans les yeux, puis je suis à la maison. Est plus perdu, là, quand tu es avec lui. Ta place est auprès du Père, auprès de Jésus. Il te regarde. Il dit, viens, j'ai une place pour toi. Tu es à la maison avec moi. Viens me regarder dans les yeux. Dis-moi, oui, je suis à la maison avec toi. C'est aujourd'hui qu'il faut faire ça pour que ça se réalise dans l'éternité. Dieu nous met devant le choix aujourd'hui pour ça. Où est ta place? À qui appartiens-tu? Voici la phrase sommaire de l'enseignement ce matin. Dieu veut répondre à l'aspiration profonde de ton âme en t'offrant d'habiter pour l'éternité en sa présence. D'enfin retrouver ta place, la demeure à laquelle tu appartiens pour toujours. Prions. Seigneur grand Dieu, merci pour cette révélation ce matin de ta gloire, de ton trône. Et chaque personne qui a eu vraiment une révélation de ta présence est tombée par terre devant la splendeur, la majesté, la sainteté, la puissance de ta personne. Viens nous saisir, Seigneur, viens me saisir de cette révélation de ta personne. Et Seigneur, tu sais que c'est difficile pour nous de croire vraiment qu'on a une place auprès de toi. De croire vraiment que on t'appartient, de croire vraiment dans notre cœur de cœur qu'on est aimé de toi. Viens au secours, Seigneur, de notre incrédulité. Seigneur Dieu, je prie pour chaque cœur ici ce matin. Qui n'a pas trouvé encore sa place, qui ne sait pas vraiment de qui il est aimé et à qui il appartient. Seigneur, fais des miracles dans les cœurs ce matin. Par ton esprit, donne à tes enfants cette espérance réelle, cette attente, cette aspiration joyeuse, confiante, qu'il est aimé de toi, qu'il t'appartient. Viens combler nos cœurs de toute joie et de ta paix par notre confiance en toi, Seigneur. Fais déborder ton espérance dans nos cœurs par la puissance de ton esprit. Amen.